Allô, allô, ici Ciné Herri.
En 1946, l'artiste américain Orson Welles tourne pour la RKO The Stranger, le criminel. Fondé sur une idée de Victor Trivas, un réalisateur dont Chaos International a déjà analysé l'œuvre pacifiste No Man's Land, sortie en 1931 et qui traitait de la Grande Guerre. John Huston a coécrit le scénario du criminel avec Welles, mais il n'est pas crédité au générique. Quant à Welles, il interprète le rôle titre avec à ses côtés Edward G. Robinson et Loretta Young, Philippe Merrival, Constantin Shane, Richard Long et Billy House pour les principaux rôles. Il s'agit d'un thriller dans la veine des Enchaînés, Notorious, d'Alfred Hitchcock et qui sortit la même année. C'est une œuvre magnifique de facture expressionniste qui connut un succès immédiat. Mais furieux contre le dirigeant de la RKO, Sam Spiegel, qui lui avait imposé nombre de contraintes, Welles renia le film dès sa sortie. L'auteur flamboyant déclara à ce propos avec grande amertume qu'il s'agissait de son plus mauvais film, ajoutant avec colère « Il n'y a rien de moi là-dedans. Je l'ai fait pour prouver que je pouvais tourner un film comme tout le monde. Les deux bobines tournées en Amérique du Sud étaient ce qu'il y a de mieux dans le film. » Et Spiegel les a supprimés. Pourquoi en était-il venu à renier ainsi cette réalisation? Welles était pourtant bien loin d'être un débutant inexpérimenté et malléable. En effet, homme de théâtre shakespearien, jeune monstre du cinéma américain, chef de troupe, comédien, écrivain, metteur en scène, scénariste, dialoguiste, Orson Welles avait pourtant déjà produit des chefs-d'œuvre mondialement reconnus, comme Citizen Kane en 1941, La splendeur des Ambersons, The Magnificent Ambersons en 1942, et Voyage au pays de la peur, Journey into Fear, avec Norman Foster en 1943. Enfin, il s'était également rendu très célèbre en réalisant La guerre des mondes, une émission radiophonique diffusée le 30 octobre 1938 sur le réseau CBS. Adaptation du roman éponyme de l'écrivain britannique Herbert George Wells, elle était devenue très vite culte. Selon la légende forgée dès cette époque, cette émission farce prit la forme d'un gigantesque canular qui aurait suscité un vent de panique à travers tous les États-Unis. Des dizaines de milliers d'auditeurs croyant qu'il s'agissait d'un véritable bulletin d'information et qu'une attaque d'extraterrestres était bel et bien en cours. Après une panique si mémorable, Welles devint du jour au lendemain un Wonder Boy, capable de remplir des salles entières de cinéma en défrayant la chronique. Fort de cette immense notoriété, il arriva donc à Hollywood à l'été 39. La RKO lui accorda alors le plus fabuleux contrat de toute l'histoire du cinéma. En fait, on lui proposait de détenir tous les droits, liberté totale de création, prime immédiate et 25% de bénéfices bruts pour tous les films qu'il accepterait de réaliser. Mais 2 ans plus tard, la rupture était déjà consommée. Comme Eric von Stroheim avant lui, Orson Welles, l'enfant terrible du cinéma hollywoodien, fut très vite marginalisé, voire martyrisé, par la logique financière d'Hollywood. Quant à ses œuvres, Citizen Kane et La splendeur des Ambersons, considérées comme trop sulfureuses, elles furent remaniées à l'insu de son auteur par la production, parfois même sabotées. C'est dans ce contexte très conflictuel et douloureux qu'Orson le proscrit, Orson le maudit, tourna donc le criminel. Dans ce film qui montre pour la première fois les camps de concentration, Welles interprète le rôle d'un ancien nazi. Retraçons le synopsis. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'inspecteur Wilson, incarné par Edward G. Robinson, membre de la commission sur les crimes de guerre, Commission on War Crime, laisse sciemment échapper un ancien nazi, Konrad Meinecke, ancien responsable d'un camp d'extermination. Il espère ainsi que ce dernier le mènera à un important dirigeant nazi, un des théoriciens du génocide qui était son supérieur hiérarchique pendant le conflit. Celui-ci a en effet réussi à disparaître sans laisser de traces, échappant jusque-là à la traque dont il fait l'objet. Or, après son évasion arrangée par Wilson, Meinecke se rend directement aux États-Unis. Devant les autorités, il décline une toute autre identité. Il prétend s'appeler Polanski, être citoyen polonais et se rendre dans le pays pour des raisons de santé. En fait, il vient retrouver le criminel de guerre Franz Kindler, qui se cache dans un petit village du Connecticut, sous le nom d'un certain Charles Rankin, professeur d'histoire de son état. Finalement, il arrive au domicile de ce dernier le jour de son mariage. Franz Kindler, alias Charles Rankin, se vante auprès de Meinecke d'avoir détruit toutes les preuves de son passé et de sa véritable identité jusqu'à ses empreintes digitales. En outre, il déclare à son ancien subordonné qu'il va épouser la fille d'un juge à la Cour suprême des États-Unis, le magistrat Longstreet, un célèbre démocrate. Sa fiancée, Mary Longstreet, croit donc épouser l'honorable Charles Rankin alors qu'elle s'apprête à se marier à son insu avec un criminel de guerre, une duperie bien commode pour Franz Kindler, ce qui l'amuse beaucoup. En effet, sa fuite matériellement organisée semble garantie par ses mensonges qui dissimulent son identité véritable. Ce système sophistiqué d'occultation lui confère un sentiment d'impunité et de toute puissance. Même grand criminel d'un régime déchu, même pourchassé, traqué, il se sent encore et toujours maître du jeu. Qui suspecterait que je suis le fameux Franz Kindler? La fille est très jolie, le camouflage est parfait. Professeur des fils de l'Amérique, je reste là et je reste caché jusqu'au jour où nous frapperons à nouveau. Le jour de son mariage, Kindler n'enterre pas sa vie de garçon comme le veut la coutume pour tant d'autres hommes. Non, lui, il enterre le cadavre d'un homme qu'il vient d'assassiner. Surtout, à travers lui, il enterre plus encore son passé et l'ultime témoin. Un passé dont il s'est acharné à détruire toutes les preuves matérielles et tous les repères qui pourraient éventuellement subsister. L'inspecteur Wilson souligne combien la traque de ce criminel ne sera pas aisée, car, dit-il, contrairement à Göring, Himmler et les autres, Kindler avait la passion de l'anonymat. Les journaux n'ont aucune photo de lui. Avant qu'il ne disparaisse, il a détruit toutes les traces le reliant à son passé, jusqu'à la dernière de ses empreintes digitales. Il ira même jusqu'à appliquer le statut de témoin au pauvre chien de sa jeune épouse qu'il empoisonnera, tout simplement parce que l'animal venait de découvrir le corps de Meinecke qu'il venait tout juste d'assassiner. Il s'en justifiera ainsi. Le meurtre est une chaîne, Marie. L'un entraîne l'autre comme un cercle autour de ton cou. Red grattait la tombe de l'homme que j'ai tué. Cette œuvre tournée en 46 n'a absolument pas vieilli. Au contraire, plus d'un demi-siècle après sa sortie, elle prend une dimension terriblement paradigmatique et prémonitoire. En effet, Franz Kindler représente l'archétype du nazi, grand criminel de guerre, exfiltré en Amérique latine dès la fin du conflit. Or, depuis, l'histoire a largement rejoint et dépassé la fiction. À ce titre, en termes politiques, ce film a gagné avec le temps une pertinence et une authenticité qui n'étaient guère perçues lors de sa sortie. On songe tout d'abord naturellement à Adolf Eichmann, haut fonctionnaire du Troisième Reich, officier SS Obersturmbannführer, qui fut démasqué en 1960. Rappelons qu'il avait en charge les affaires juives et celles de l'évacuation. En l'espèce, il fut responsable de la logistique de la solution finale, Endlösung. Il organisa notamment l'identification des victimes de l'extermination raciale prônée par le NSDAP et leur déportation vers les camps de concentration et d'extermination. Pourtant, à la fin de la guerre, grâce à nombre de complicités, il réussit à échapper à la justice après la capitulation allemande et notamment à échapper au procès de Nuremberg qui se tint en 1948. Retrouvé à Buenos Aires en Argentine, où il vivait depuis 10 ans, caché sous le nom de Ricardo Clement, Eichmann fut capturé par des agents du Mossad en mai 1960 et exfiltré en Israël. À l'issue d'un retentissant procès tenu à Jérusalem à partir d'avril 61, il fut exécuté le 31 mai 62. La philosophe juive allemande Hannah Arendt assista pour le New Yorker aux audiences de ce procès hors normes et publia une série de chroniques. Elles furent ensuite compilées pour devenir un classique sous le titre Eichmann à Jérusalem. Dans cet ouvrage, Arendt reprend sa fameuse théorie du rouage, déjà développée dans les origines du totalitarisme. En vertu de cette thèse, elle considère qu'Eichmann était la personnification même de ce qu'elle appela la banalité du mal. En revanche, il n'était ni particulièrement antisémite, ni un malade mental, ni un sadique. En revanche, il s'est mobilisé et était prêt à tout pour faire carrière dans le système nazi. C'est la raison pour laquelle, dit-elle, il n'a semblé ressentir ni culpabilité ni haine. Il s'est présenté jusqu'à la fin comme un professionnel, un homme discipliné qui a bien fait son métier, toujours soucieux d'effectuer les tâches qu'on lui attribuait. Dans le même registre, on peut également mentionner le cas de Rudolf Höss, qui a inspiré le grand roman de Robert Merle, La mort est mon métier. Cet ouvrage prend la forme de mémoires apocryphes fondées sur les entretiens que Höss eut en prison avec le psychologue américain Gustav Gilbert avant le procès de Nuremberg. Pour sa part, Rudolf Höss était le commandant du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Lui non plus n'était pas un fou, ni même un fanatique, ni un antisémite acharné. Il fut d'abord et avant tout un carriériste zélé et obéissant. Il fait figure de grand professionnel de la mort, émotionnellement mort, apathique. Jusqu'au bout, il fit preuve d'une totale obéissance aux ordres d'Heinrich Himmler concernant l'extermination des Juifs. Il a également pris des initiatives, par exemple lorsqu'il s'est agi d'augmenter les capacités exterminatrices d'Auschwitz, notamment en utilisant le Zyklon B dans un ensemble de chambres à gaz. E s'est arrêté par les troupes britanniques le 11 mars 1946. Il témoigne lors du procès de Nuremberg, écrit son autobiographie, puis est jugé par le tribunal suprême de Pologne du 11 mars au 2 avril 1947 lors du procès d'Auschwitz. Condamné à mort, il est exécuté par pendaison le 16 avril 1947 sur le lieu même de ses crimes. Il se déclarera responsable, mais absolument pas coupable jusqu'à la fin. Aux questions du psychologue Gustave Gilbert, Höss répond par exemple: La pensée de refuser d'exécuter un ordre ne me venait même pas, dès lors qu'Himmler l'avait ordonné et en avait même expliqué la nécessité. Par conséquent, il ne s'était jamais vraiment demandé en somme si c'était mal, si cela lui semblait simplement une nécessité. La question la plus cruciale étant de définir sa responsabilité exacte dans la mise en œuvre de la solution finale. Beaucoup d'experts affirmaient au contraire qu'il savait exactement ce qu'il faisait et connaissait les conséquences de ses actes. Pour l'écrivain et ancien déporté Primo Levi, eux, c'était un homme vide, un idiot tranquille et empressé qui s'efforçait d'accomplir avec le plus de soin possible les initiatives bestiales qu'on lui confiait et qui semblait trouver dans cette obéissance un total assouvissement de ses doutes et de ses inquiétudes. Quant à l'écrivain français Robert Merle, il écrit en 1972 dans sa préface à propos de Rudolf Lang, son personnage alias Rudolf Höss: Ce qui est affreux et nous donne de l'espèce humaine une opinion désolée, c'est que pour mener à bien ses desseins, une société de ce type trouve invariablement les instruments zélés de ses crimes. Il y a eu sous le nazisme des centaines, des milliers de Rudolf Lang, moraux à l'intérieur de l'immoralité, consciencieux sans conscience, petits cadres que leur sérieux et leur mérite portaient aux plus hauts emplois. Tout ce que Rudolf fit, il le fit non par méchanceté, mais au nom de l'impératif catégorique, par fidélité au chef, par soumission à l'ordre, par respect pour l'État, bref, en homme de devoir, et c'est en cela justement qu'il est monstrueux. Mais ne soyons pas dupes, semble nous avertir Wells, car comme l'inspecteur Wilson le déclare dans le film, à propos des criminels de guerre nazis, vous savez, ils ressemblent à tout le monde quand ça les arrange. Dans le criminel, la question de zone psychique floue et insaisissable que nous venons d'aborder en évoquant Adolf Eichmann ou Rudolf Höss ne se pose pas. En effet, il n'existe pas de zone grise chez Kindler. N'oublions pas à cet égard que le film fut tourné en 1946. La guerre n'était terminée que depuis un an à peine. C'est sans doute la raison pour laquelle la propagande anti-nazie qui régnait alors aux États-Unis subsiste encore dans cette réalisation, prenant une dimension parfois très didactique. Le méchant est ainsi présenté de manière claire et nette, voire caricaturale. Le parti pris de mise en scène est évident. Malgré la puissance de jeu, le charisme et le charme d'Orson Welles, Kindler ne doit pas être sympathique aux yeux du spectateur. Signalons qu'il en sera de même en 1957 avec Le Troisième Homme, lorsqu'en pleine guerre froide, Orson Welles incarnera un trafiquant criminel prêt à tout, lui aussi, sera construit comme un être antipathique auquel il est impossible de s'identifier. Orson Welles campe donc son personnage non sans un certain manichéisme. C'est ainsi que Kindler a écrit une théorie du génocide pour les populations et se montre toujours aussi résolu de passer à l'action dès que possible, à la différence de l'illuminé Meinecke en proie au repentir. Au contraire, il reste toujours aussi fanatique et ne se dissimule pas seulement pour échapper à la justice, mais aussi et surtout parce qu'il garde l'espoir de faire triompher la cause nazie dans un proche avenir. Le moment venu, il ne minimisera sa participation au crime de masse que par calcul. Alors qu'il est acculé lorsqu'on lui dit « You are finished, Herr Franz Kindler », il se défausse et refuse d'assumer ses responsabilités, déclarant « J'ai obéi aux ordres ». La figure emblématique de Kindler, qui se cache sous une fausse identité et se réinvente un passé, une nationalité, évolue dans une nouvelle langue, une nouvelle culture, fait bien sûr songer aujourd'hui à Klaus Barbie. Surnommé le boucher de Lyon, ce SS-Hauptsturmführer avait été personnellement félicité par le Reichsführer SS Heinrich Himmler pour la qualité de son travail dans la lutte implacable qu'il mena contre la résistance française. Ce nazi avait notamment fait arrêter, torturer et tuer le chef de la résistance, le représentant personnel du général de Gaulle, chargé d'unifier les mouvements de résistance, Jean Moulin. Klaus Barbie est resté en fuite durant plus de 40 années. Il a vécu en Bolivie où il a obtenu la nationalité sous l'identité de Klaus Altmann. À partir de 1964, il a collaboré activement avec l'armée bolivienne et donné des conseils pour la recherche et la torture des opposants. Il a bénéficié de nombreuses et importantes protections, comme celle du régime Banzer jusqu'à sa chute en 1978. Grâce aux coupes Klarsfeld et au journaliste français Ladislas de Hoyos, qu'il a retrouvé et démasqué en Bolivie, Barbie a été finalement extradé de ce pays pour être jugé en France, où il a été condamné à la perpétuité à Lyon en 1987 pour la déportation de centaines de juifs de France et notamment l'arrestation le 6 avril 1944 de 44 enfants juifs et de 7 adultes à la maison d'enfants d'Izieux et leur déportation à Auschwitz, c'est-à-dire pour crimes contre l'humanité. Mais revenons au criminel. Dans son interprétation extravagante, hallucinée et inquiétante, Orson Welles campe un nazi très convaincant. Franz Kindler, alias Charles Rankin, qui est habité par une seule et unique conviction, celle que le nazisme vaincra finalement un jour parce qu'il est légitime. Son dérapage verbal sur les juifs au cours d'un repas en porte témoignage lorsqu'il explose tout à coup de colère devant une assistance médusée et crie scandalisée « Marx n'était pas allemand, mais juif ». Kindler est finalement habité par une seule et unique passion, celle des horloges. Mais elle lui sera fatale, puisque malgré toutes les preuves détruites, les témoins assassinés, les empreintes et les traces effacées, ces carillons ont continué imperturbablement de marquer le temps, le changement d'époque, le passage des heures et celui de la démocratie à la barbarie et de la barbarie vaincue à la démocratie recouvrée. Cependant, ces témoins immobiles et muets ont plus encore révélé et trahi son identité profonde. Telle une signature indélébile demeurant par-delà toutes les feintes, les dissimulations et un flou savamment construit et entretenu, elles ont placé Kindler dans une étrange espèce d'opacité transparente, un état qui l'a rendu vulnérable jusqu'au point de le piéger et de le mettre à mort. C'est pourquoi la superbe scène finale où l'on voit Kindler empalé par l'automate d'une horloge auquel il vient de redonner vie, constitue un symbole fort, empreint d'une singulière acuité. Le glaive de l'automate symbolisant le glaive de la justice.